Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
Malgré les contraintes liées au moment, par le truchement de cette visio, je suis heureux de pouvoir honorer cet engagement.
C'est en visioconférence qu'Emmanuel Macron est apparu hier pour la première fois depuis l'annonce de son test positif au Covid. Il a de la fièvre, il est fatigué, un président très entouré sur le plan médical. On va vous raconter ça dans un instant. Dernière journée avant les vacances scolaires et inquiétude pour les terminales sur le déroulement du bac. Les premières épreuves sont maintenues en mars. Il avait prévu de faire un carnage, l'auteur de l'attentat des jouets du Thalys, condamné à la perpétuité. Allez-vous recevoir des cadeaux d'entreprise ou est-ce que vous en prévoyez pour vos clients, malgré le contexte compliqué? Eh bien oui, la tradition ne se perd pas. Celle d'un repas d'exception pour le soir de Noël non plus d'ailleurs. On verra à la fin de ce journal qu'on peut se faire plaisir avec de bons petits plats concoctés par de grands chefs.
La personne qui va acheter le pâté de chasse chez nous aura une fiche technique qui va lui permettre de servir ce plat comme il aurait été servi sur notre table.
On pourra dire, c'est moi qui l'ai fait.
Exactement.
Un pâté de chasse signé de la maison Bocuse.
Juste après ce journal, l'économie américaine rebondit vite, plus vite que la nôtre. L'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouette. Faut-il être rebelle pour réussir? Il semble que cela a payé pour les handballeuses en demi-finale de l'Euro. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron se réveille ce matin au pavillon de la Lanterne à Versailles. Un président désormais confiné qui est apparu hier en visioconférence, les traits tirés. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a donné de ses nouvelles dans la soirée.
Il a des symptômes réels de la maladie, c'est-à-dire une toux et une fatigue importante, notamment. Le président est suivi par un médecin du service de santé des armées en continu et en temps normal déjà. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur son suivi. Il y a un choix du président de la République qui est celui d'une transparence totale. D'ailleurs, dès qu'il a reçu ce matin le diagnostic positif de son test, il a tenu à ce que l'information soit communiquée aux Français en toute transparence. Je suis chez vous ce soir pour communiquer en toute transparence sur son état de santé ce soir. Et je ne sais pas si ce sera chaque jour un bulletin ou si je viendrai chaque jour sur votre plateau. En tout cas, la transparence, évidemment, est toujours la règle pour nous et elle le restera.
Voilà, le porte-parole du gouvernement qui promet la transparence.
Il a dit transparence,
voilà.
Gabriel Attal.
Sur BFM TV.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour Mathieu.
Emmanuel Macron est, certes, isolé à la Lanterne, mais certainement pas seul. À ses côtés, tout un service médical dont vous pouvez nous dévoiler l'organisation.
Oui, c'est un service ultra discret qui, depuis hier soir, en fait, se relaie auprès du chef de l'État avec une équipe constituée exclusivement de médecins et d'infirmières militaires qui dispose du nec plus ultra en matière d'équipement d'urgence et de réanimation. Une demi-douzaine de personnes qui peut aussi bien lui donner un petit médicament que le traiter en urgence pour un AVC, un infarctus, un empoisonnement ou même le soigner pour une blessure par balle ou par arme blanche. Que le président soit en France ou à l'étranger d'ailleurs, un médecin urgentiste le suit 24 heures sur 24.
Alors c'est un sujet ultra sensible, mais si jamais l'état de santé d'Emmanuel Macron devait se dégrader, ce qu'on ne lui souhaite pas évidemment, qu'est-ce qui peut se passer?
Eh bien, il y a plusieurs options. L'évacuation terrestre vers l'hôpital militaire de Percy à Clamart, ou en cas d'extrême nécessité, l'évacuation par les airs grâce à un hélicoptère de la sécurité civile qui peut se poser dans les jardins de la Lanterne à Versailles. Et puis en cas d'extrême urgence, si vraiment ça ne pouvait pas attendre, le président pourrait être évacué à l'hôpital Mignot au Chesnay ou bien à la clinique des Franciscaines à Versailles.
Alors d'ailleurs, Louis Dragnel, comment ça se passe la vie d'Emmanuel Macron à la Lanterne dans cette résidence secondaire du chef de l'État?
Alors d'abord, le président est parti là-bas pour s'isoler, donc il a laissé son épouse à l'Élysée. Mais il sera quand même bien entouré, il aura tout le matériel nécessaire, informatique, visioconférence, pour être en liaison avec ses ministres et gouverner le pays. En fait, tout est organisé pour que le président puisse travailler quasi normalement. Cette nuit, plusieurs convois ont transporté les dossiers les plus urgents et du matériel informatique. Et le service d'intendance d'Emmanuel Macron le suit, tout comme son aide de camp qui l'accompagne en permanence, notamment pour le protocole nucléaire et pour les transmissions cryptées sur tous les sujets sensibles.
Voilà, un dispositif quasiment secret que vous nous dévoilez ce matin Europe 1, Louis Dragnel.
Ce sont des endroits de la République dans lesquels on ne peut pas pénétrer d'ordinaire. Louis Dragnel nous a fait visiter la Lanterne.
Voilà, exactement. Alors, comment est-ce que le président a été contaminé? A priori, lors du sommet européen de Bruxelles, jeudi et vendredi dernier, 5 dirigeants européens ont d'ailleurs décidé de s'isoler par précaution. À propos de vaccination, elle va commencer dans l'ensemble de l'Union les 27-28 28 et 29 décembre. De leur côté, les États-Unis s'apprêtent à autoriser un deuxième vaccin, celui de Moderna. Le Covid n'est vraiment pas une grippette, hein, comme certains ont pu le dire. Selon une étude française publiée ce matin, il a fait 3 fois plus de morts à l'hôpital que la grippe saisonnière classique, une étude qui porte sur plus de 135 000 patients.
7h05 sur Europe 1. Pas question d'alléger le bac 2021. Jean-Michel Blanquer est intraitable. Grand oral maintenu fin juin, début juillet, mais aussi épreuve de spécialité à la mi-mars.
Autant dire que les élèves de terminale qui sont en vacances ce soir stressent déjà à l'idée de la rentrée. La plupart suivent la moitié des cours à distance. Mais selon les établissements, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne, comme le montre ce reportage de Virginie Riva.
Dans son lycée, situé dans le 11e arrondissement de Paris, Manel a cours tous les jours, mais uniquement par demi-journée. Les après-midi où elle est chez elle, elle a surtout des devoirs à faire, pas de cours en visio. Impossible dans ces conditions de voir tout le programme, particulièrement en spécialité maths, l'une des deux matières qu'elle a choisies.
Thématique, mon professeur m'a clairement dit que donc il y a peut-être des chapitres qu'on devra faire tout seul à la maison avant l'épreuve. Et je trouve que c'est inadmissible de faire un chapitre tout seul qu'on n'a jamais vu avant.
Pour éviter justement de tomber sur une impasse et tenir compte de la pandémie, il y aura 2 sujets proposés dans chaque matière choisie pour le bac. Reste une inégalité majeure, tous les élèves n'avancent pas de la même manière selon les lycées. Alexia, elle, est plutôt sereine. Élève en terminale dans un lycée du 8e arrondissement parisien, ses cours de spécialité ont tous été maintenus en présentiel.
Je me sens plutôt bien parce que c'est vrai que on est quand même assez préparé vu qu'on a quand même 6 heures par spécialité. En plus, on a eu un bac blanc là les 2 derniers jours. Donc on a déjà pu avoir une idée de comment ça va se passer.
Des notes aux épreuves de spécialité qui seront prises en compte dans la sélection pour Parcoursup.
Et le président de la FCPE, qui représente les parents d'élèves, Rodrigo Arenas, estime en effet que les évaluations de mars seront inégalitaires. Il était l'invité de Sébastien Krebs tout à l'heure à 5h40.
La perpétuité pour le tireur du Thalys. Le verdict est tombé au procès de l'attentat des Jouets du mois d'août 2015.
Oui, et avant l'annonce du verdict, Ayoub El Kazani a présenté ses excuses aux victimes en pleurant. Ce Marocain était monté dans l'Amsterdam-Paris lourdement armé. Il avait blessé 2 personnes, mais son intention était de commettre un massacre. Gladys Lafitte.
Pour la cour, cela ne fait aucun doute, Ayoub El Kazani était déterminé à tuer tous les passagers du Thalys. La preuve, son arsenal de guerre, une Kalachnikov, un pistolet et près de 300 munitions, et sa résistance, une force surhumaine face aux passagers qui l'ont désarmé. Les juges n'ont pas été convaincus par l'invraisemblance de ses déclarations au procès. Ils ont aussi condamné son silence sur la présence d'Abdelhamid Abaoud en Europe, futur coordinateur du 13 novembre, qui préparait d'autres attaques, un lien démontré lors du procès selon Thibaut de Montbrial, avocat des héros du Thalys.
Les juges se sont vraiment attachés dans le détail à expliquer en quoi cette cellule terroriste envoyée depuis la Syrie s'inscrivait dans le temps long. C'était en quelque sorte ce procès Thalys, l'avant-garde du procès du 13 novembre.
3 autres hommes ont donc aussi été condamnés, tous 3 aussi en lien avec Abdelhamid Abaoud, grâce à qui il a pu rejoindre l'Europe en prenant la route des migrants. L'un d'eux a été condamné à 25 ans de réclusion. Il comparaîtra aussi au procès des attentats du 13 novembre pour son rôle supposé de logisticien en septembre prochain.
L'accusé va faire appel de sa condamnation.
Une courte pause sur Europe 1, puis on va vous dire si la tradition des cadeaux d'entreprise se maintient cette année. Pour se faire plaisir également, un repas de chef concocté à la maison. 7h08, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h09, la suite du journal, Hélène Zélani.
C'est l'une des traditions de fin d'année, qu'on soit salarié ou patron, le cadeau d'entreprise. Victuailles, bouteilles de vin, chocolat ou gadgets siglés. Mais à l'heure du Covid, ces petits gestes sont-ils toujours d'actualité, Aurélien Fleureau? La réponse est oui.
Exactement, beaucoup d'entreprises concernées par ces cadeaux de fin d'année, à commencer par les traditionnels champagne et chocolat, craignaient une nette baisse dans les commandes. Pas du tout, explique Guillaume Marzaguil, le directeur général de la Maison du Chocolat.
On a été surpris début décembre par l'entrée de beaucoup de demandes d'entreprises portant sur des grosses quantités de coffrets de chocolat qu'elles souhaitaient offrir à leurs collaborateurs pour les remercier de leur performance, pour les remercier de l'engagement qu'ils ont eu tout au long de l'année.
Et si dans les maisons de champagne, l'activité est forcément moindre, pas d'arbre de Noël, pas de repas de fin d'année, moins 20% environ chez Nicolas Feuillade par exemple, malgré tout, les commandes ont fini par arriver, notamment pour offrir des cuillères cuvée exclusive pour faire plaisir. Et c'est précisément ce qu'a remarqué Delphine Lutz, fondatrice de l'agence de cadeaux d'affaires Les Petits Moments.
Le calendrier aussi est chamboulé, c'est-à-dire que les demandes arrivent beaucoup plus tard, mais les thématiques qui se retrouvent le plus souvent là en ce moment, c'est vraiment cette idée de réconfort. Comment on va créer du lien ? On a envie que nos collaborateurs soient chouchoutés, gâtés.
Des jeux, des livres, des produits autour du bien-être et surtout du fabriqué en France, les entreprises ont clairement eu envie de faire travailler les commerçants touchés par la crise.
Aurélien Fleurot.
Les cadeaux sous le sapin, les cadeaux en entreprise et pourquoi pas se faire à soi et à sa petite famille un très joli cadeau, s'offrir un réveillon concocté, mitonné par un grand chef.
Oui, les restaurants étant fermés, beaucoup proposent des repas de fête à emporter, des Parisiens, mais aussi de belles maisons en région comme Bocuse à l'auberge de Collonges au Mont d'Or, pâté en croûte Richelieu, escargot du Val-de-Saône ou bûche de Noël. On en a déjà l'eau à la bouche grâce à Jean-Luc Boujon.
Et si le 24 au soir, Bocuse s'invitait chez vous jusqu'à lundi soir, les plats du célèbre chef peuvent être commandés au restaurant. Ainsi, à vos convives, vous pourrez servir du lièvre à la royale ou une poularde de Bresse truffée sous la peau, ou bien encore le fameux gratin de cardon à la moelle. Mais pourquoi pas commencer en entrée par le célèbre pâté de chasse feuilleté sauce aux truffes, propose Olivier Couvin, chef de cuisine.
Le pâté de chasse, on a du lièvre, on a de la sarcelle, on a du foie gras, on a du canard sauvage, et pour nous, il est jamais aussi bon que quand vous le sortez du four et que vous le mangez dans les 5 minutes qui suivent. La personne qui va acheter le pâté de chasse chez nous aura une fiche technique qui va lui permettre de servir ce plat comme il aurait été servi sur notre table.
On pourra dire c'est moi qui l'ai fait.
Exactement.
Presque.
Et pour les prix, c'est du Bocuse, mais accessible, explique Olivier Couvin.
La philosophie de Monsieur Paul, c'était de toucher le plus grand nombre du public. Un gratin de macaroni aux truffes, ce sera 40 euros. Pour 4 personnes, nous servons le plat de gratin en céramique avec l'âme de Bocuse à l'intérieur.
Les cuisiniers seront donc ravis de reprendre du service à partir de demain après 2 mois d'inactivité pour préparer les plats des 400 clients qui ont déjà passé commande. Collonges au Mont d'Or, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Gratin de macaroni aux truffes.
Même au petit-déj. Même au petit-déjeuner. Merci beaucoup. C'était le journal de 7h. Il est 7h12 quand on vous dit que le monde a changé. Pardon. Le click and collect à l'auberge de Collonges au Mont d'Or chez Paul Bocuse. Rendez-vous compte. 7h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Europe 1 soutient la culture, c'est essentiel. Vous le savez, nous ouvrons notre antenne aux artistes à 8h30, des conseils, des prescriptions. J'appelle tout à l'heure Bernard Werber et la danseuse étoile Marie-Claude Pietragala. Dès 7h40.
C'est prévu la fin du monde, le Big Bang, l'apocalypse.
Gaël Faye, véritable homme orchestre, couteau suisse, auteur, compositeur, interprète franco-rwandais, rappeur, auteur du livre à succès Petit Pays devenu un film. Un nouvel album apparu début novembre, Lundi Méchant. C'est un message d'espoir, vous allez l'entendre. Gaël Faye, invité du tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage. Nicolas Barré.